Chapitre 1. Le pensionnat Wembley. Partie 2.
C'était une femme noire de peau, de taille moyenne, vêtue d'une simple robe violette. Ses cheveux crépus étaient tressés et piquetés de perles argentées. « Bonjour, » lui dit la femme avec un grand sourire. « Vous devez être Mrs. Malfoy. Je suis Eleanor Wembley, la directrice de cet établissement. » Narcissa se leva, incapable de lui témoigner autre chose que du respect. Eleanor Wembley était bien plus âgée et plus petite qu'elle, et Narcissa était habillée de manière beaucoup plus élégante. Mais elle se sentait tout de même intimidée par sa présence. Malgré sa robe banale, ses mains calleuses et l'absence de pierres précieuses accrochées à son cou, Eleanor Wembley avait une allure envoûtante, et son visage rayonnait de sagesse et de douceur. « Vous souhaitiez me parler, je crois. »« C'est-à-dire que... mon mari était justement parti vous chercher, » bafouilla Narcissa en regardant vers la porte qui donnait sur le jardin. « Eh bien, il aurait mieux fait de m'attendre ici. Puis-je vous faire visiter en attendant son retour ?» Narcissa regarda vers le jardin et aperçut Lucius qui arpentait le fond du terrain en fulminant. « Ne vous en faites pas. Votre mari nous rejoindra en chemin. Venez, suivez-moi. » Eleanor Wembley s'était lentement approchée d'elle. Elle lui prit délicatement le bras et l'entraîna vers la porte qui menait vers le dédale infini des couloirs du pensionnat. Narcissa n'opposa qu'une faible résistance, hypnotisée par la douceur et l'enthousiasme d'Eleanor Wembley. En ouvrant une des trois portes du hall d'entrée, elles entrèrent dans un couloir courbé qui semblait suivre le mur extérieur du pensionnat. Le couloir, au mur de pierre blanche, était ponctué de portes ouvertes qui donnaient sur des salles de classe ou de jeu, toutes différentes, mais toutes circulaires. « Pour que personne n'aille jamais au coin !» plaisanta Eleanor Wembley. La salle de géographie donnait l'impression de rentrer dans un globe terrestre grandeur nature. Dans la salle dédiée aux mathématiques, des prismes et des sphères colorées lévitaient dans les airs. Dans celle dédiée à l'histoire, une frise chronologique d'une complexité inimaginable défilait lentement sur les murs et en touchant une partie, on avait accès à d'innombrables photographies d'époque et aux séquences d'archives correspondantes. « Vous voyez ?» disait gaiement Eleanor Wembley. « Nous ne leur apprenons pas à se servir de la magie. Ils sont beaucoup trop jeunes pour cela. Mais nous essayons de leur apprendre à contrôler leur pouvoir et à maîtriser leurs émotions, ce qui revient souvent au même à cet âge-là. Et pour cela, nous essayons de leur expliquer comment fonctionne la magie qui habite en eux, mais aussi le monde dans lequel ils vivent et comment les sorciers et les moldus interagissent entre eux. » Narcissa songea, honteuse, qu'elle n'avait aucune connaissance de tout ce dont Eleanor Wembley parlait. Heureusement, la directrice du pensionnat changea de sujet pour décrire à Narcissa l'organisation de son établissement. Le pensionnat était ouvert à tous les enfants qui en avaient besoin, indépendamment de la nature de leurs parents. Eleanor Wembley insistait bien sur ce point. Elle les recueillait à la demande des familles qui étaient à bout de force, ou bien elle recevait un signalement de la part de sorciers qui avaient identifié un jeune sorcier méconnu en détresse. Dans ce dernier cas, elle menait l'enquête pour savoir s'il s'agissait réellement d'un petit sorcier, et si c'était bien le cas, elle s'autorisait à rendre visite à la famille en question, pour leur expliquer pourquoi les murs de leur maison s'étaient transformés en sucre d'orge, ou pourquoi l'aîné de la fratrie avait vu ses cheveux devenir orange après une dispute avec son petit frère, et en quoi tous ces événements désagréables étaient totalement indépendants de la volonté de leur enfant. Cette révélation menait à plusieurs types de réactions. Les parents étaient souvent soulagés de trouver une explication à tous ces incidents. Mais d'autres étaient parfois horrifiés ou simplement perplexes. Eleanor Wembley leur proposait alors son aide, soit par le biais de visites répétées à domicile, soit en hébergeant temporairement leur petit sorcier. Le choix était souvent difficile. Les parents détestaient l'idée de se séparer de leur enfant, souvent jeune, mais la situation était parfois si difficile pour tout le monde qu'on finissait par en arriver là. Évidemment, les parents pouvaient faire revenir leurs enfants auprès d'eux à n'importe quel moment. Mais en dehors des vacances scolaires, cela arrivait très rarement. Et les familles pouvaient venir au pensionnat autant qu'elles le souhaitaient. « Vous hébergez des parents moldus ?» s'étrangla Narcissa en apprenant cela. « Et ils voient tout ça ?»« Bien sûr. Nous les accueillons à tout moment. Ce sont de très jeunes enfants, vous l'avez bien vu. Je n'ai pas la prétention de remplacer leur famille. » Souvent, lorsqu'ils emmènent leur enfant ici pour la première fois, ils restent plusieurs jours avec eux pour la transition. Et pour les parents qui le souhaitent, c'est l'occasion de se familiariser avec les principes fondamentaux de la magie. Narcissa ouvrit de grands yeux ronds. Des moldus qui apprenaient la magie ? Elle pria intérieurement pour que son père n'ait jamais vent de cette conversation. « Je parle des principes théoriques, bien entendu !» sourit Eleanor Wimbley en voyant l'expression stupéfaite de Narcissa. « C'est important pour eux de comprendre pourquoi leur enfant n'arrive pas à se contrôler et comment l'aider. Pour le moment, cet enseignement a eu des effets extrêmement bénéfiques autant pour les enfants que pour leurs parents. L'objectif final est de trouver un équilibre entre leur famille et le nouveau monde qui s'offre à eux. » Narcissa n'avait jamais pensé aux difficultés que pouvaient éprouver ses enfants pour vivre de cette manière entre deux mondes. Mal à l'aise, elle repensa aux quelques fois où elle avait ri aux plaisanteries de Lucius sur les nez moldus qui n'avaient jamais entendu parler de Poudlard avant leur première rentrée. C'est pourquoi, pour les quelques sorties que nous faisons avec les enfants, je les emmène aussi bien à des concerts de musique moldue qu'à des matchs de Quidditch, poursuivit Eleanor Wimbley. Et croyez-moi, cela les émerveille tout autant. Quand je pense que nous avons vécu si longtemps dans la haine de nos voisins, il est temps de s'en affranchir, n'est-ce pas ? Tout en bavardant, Narcissa et Eleanor suivirent le couloir qui s'enfonçait en spirale dans le pensionnat et passèrent devant un grand réfectoire avec une unique table centrale, taillée dans la même pierre blanche que les murs du pensionnat, puis devant des dortoirs confortables, remplis de lits superposés couverts de peluches. Au-dessus de leur tête, le dôme de pierre était de plus en plus haut. Arrivées sous le centre de la voûte, elles parvinrent à une porte que Narcissa faillit rater, tant elle était bien camouflée, taillée dans la même pierre blanche que le reste des murs, si bien qu'elle aurait pu n'être qu'un simple renfoncement. Eleanor Wimbley approcha sa main de la porte et un hibou argenté se mit à briller sur la pierre blanche. Elle poussa la porte et fit signe à Narcissa de rentrer dans son bureau. Dans la pièce ronde, un grand bureau en bois était couvert d'enveloppes violettes, frappées du sceau du pensionnat Wimbley, le hibou argenté aux grands yeux ronds. Les murs étaient tendus de draperies violettes, brodées du même hibou argenté. Et sur le sol, à nouveau, se trouvait une grande dalle ronde où était gravé le même motif, et autour de laquelle les pierres formaient des cercles concentriques. D'innombrables photographies trônaient sur les étagères et sur le bureau. On y voyait Eleanor en compagnie de familles réconciliées, d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, tous souriants, brandissant un diplôme ou la main d'un époux. Chaque photo était accompagnée d'un petit mot. « Merci pour tout, je vous dois tellement. Merci infiniment pour votre aide précieuse. » « Merci encore pour votre présence et votre soutien. » Au fond de la pièce, dans un recoin sombre, se trouvait une imposante vitrine, derrière laquelle une quantité importante de beuglantes s'époumonnait inutilement contre le verre blindé. La plupart d'entre elles étaient blanches et parcheminées, mais trois d'entre elles se démarquaient par leur couleur rose vif. Narcissa s'en approcha, intriguée. « J'en reçois tous les jours, » soupira Eleanor Wimbley. Je me fiche des insultes qui me sont adressées, mais je ne tiens pas à ce que les enfants se familiarisent avec les grossièretés qu'elles contiennent. » Eleanor Wimbley rejoignit Narcissa à côté de la vitrine pleine de beuglantes, saisit un petit sachet posé sur une étagère et le glissa dans une petite trappe sur le côté de la boîte vitrée. Le spectacle devint alors tout à fait intéressant. La poudre se répandit dans la vitrine comme une fumée grisâtre, et les beuglantes se mirent à éternuer à tout bout de champ, postillonnant des morceaux de papier et se percutant les unes les autres. « On s'amuse comme on peut !» sourit Eleanor en donnant un petit coup contre la vitrine. Narcissa sourit à son tour et reporta son attention sur les photographies qui remplissaient la pièce. « Comment vous est venue l'idée de créer ce pensionnat ?» Le sourire d'Eleanor Wimbley s'élargit. Narcissa n'avait pas posé beaucoup de questions depuis que les deux femmes s'étaient saluées, et Eleanor interpréta celle-ci comme un signe de sympathie. « C'était il y a tout juste 20 ans, » dit Eleanor. « Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous avez dû apercevoir mon frère Eric tout à l'heure. Il est un peu différent, vous l'avez sans doute remarqué. Enfin, peu importe. À l'époque, il était hospitalisé en permanence. Et un jour, il s'est lié d'amitié avec le petit garçon qui occupait la chambre voisine. » Eleanor s'approcha de son bureau et prit un petit cadre photo qui s'y trouvait. La photo était un peu plus vieille que les autres. On y voyait Eleanor, plus jeune de 20 ans, à côté d'un petit garçon blond qui souriait timidement, le menton baissé. Tous les deux se tenaient devant un terrain vague, parsemé de grosses pierres blanches. Eleanor s'appuyait sur un panneau bancal où était inscrit « Pensionnat Wimbley, construction en cours ». Et le petit garçon brandissait joyeusement une pelle plus grosse que lui. « C'est lui, » dit Eleanor. « C'est un émoldu. Il vivait dans une famille nombreuse, trop à l'étroit. Ses pouvoirs magiques étaient extrêmement puissants, impossibles à contrôler. Il s'était attiré beaucoup d'ennuis et sa famille était totalement dépassée. Sur un coup de tête, j'ai décidé de l'aider, lui et tous les jeunes enfants sorciers qui étaient dans la même situation. J'ai vendu ma maison et avec le peu d'argent que j'avais, j'ai acheté ce terrain. Nous avons construit le pensionnat ensemble, tous les trois, avec mon frère. Votre frère vit ici ? Oui, la compagnie des enfants et le calme de la campagne lui réussissent beaucoup. D'un large geste du bras, elle désigna toutes les photos qui se trouvaient dans la pièce. Il s'est même découvert une passion pour la photo. Pourvu qu'il n'y ait pas de flash, bien sûr. Narcissa reporta son attention sur la photo jaunie qu'Eleanor lui montrait et ne put s'empêcher d'être attendrie par le regard farouche et les cheveux blonds du petit garçon. « Comment s'appelle-t-il ? » La question parut troubler Eleanor. Elle regarda Narcissa avec le même regard étrange que William Penswick lorsqu'elle avait prononcé son prénom. « Edward, » répondit-elle finalement avec une certaine méfiance. Narcissa hocha la tête, surprise par ce changement d'attitude. Et qu'est-il devenu ? Eleanor la regarda encore un peu plus intensément et ramena la photo jaunie contre elle. Il va très bien, répondit-elle prudemment. Il est marié et a une petite fille. Elle semblait craindre la réaction de Narcissa. Dans une pièce voisine, un très jeune enfant se mit à gazouiller. Mais Narcissa n'y prêta aucune attention. Eh bien, qu'y a-t-il ? Demanda Narcissa un peu pincée. Eleanor hésita, indécise, puis secoua la tête et retrouva toute sa sérénité. Ce n'est rien, dit-elle avec légèreté. Venez, j'ai autre chose à vous montrer. Eleanor Wimbley entraîna Narcissa près d'une armoire et en ouvrit la porte. Narcissa constata que celle-ci était remplie par une quantité incroyable de médailles. Il y a des médailles de l'honnêteté, de l'enthousiasme, de la persévérance, dit Eleanor. J'en distribue généreusement. Narcissa se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle regarda vers la porte et pensa que Lucius devait être en train de les chercher. Si vous étiez un de ses enfants, je vous aurais sans doute donné celle-ci, dit Eleanor Wimbley. Narcissa se retourna. Eleanor lui tendait une médaille brillante. Elle la saisit entre ses doigts et effleura par inadvertance la peau noire d'Eleanor Wimbley, qui était chaude et rassurante. Elle examina la médaille de plus près et y lut le mot « courage ». Troublée, elle fronça les sourcils pour manifester son incompréhension. « J'ai appris ce qui est arrivé à votre mère, » dit calmement Eleanor Wimbley. Ce doit être très dur pour vous. Il paraît que c'était une femme d'une douceur et d'une gentillesse exceptionnelles. Narcissa eut soudain très chaud, et ses mains se mirent à trembler autour de la médaille argentée. Elle fut frappée par la bienveillance et la sincérité de ses mots. Excepté peut-être Lucius et Daisy, tous ceux qui lui avaient exprimé leur soutien l'avaient fait en employant des formules toutes préparées, en se dandinant d'un pied sur l'autre avec un air embarrassé. Mais surtout, dans la peine qu'ils avaient exprimée, ces hypocrites n'avaient jamais parlé que de l'inoubliable beauté de Druella Black, comme si c'était la seule qualité qu'ils regrettaient d'elle. Comme si la mère de Narcissa n'en possédait aucune autre et avait perdu toute valeur à leurs yeux lorsque la maladie avait altéré la finesse de ses traits. De nombreuses fois, face à ces fausses démonstrations de sollicitude, Narcissa avait ravalé des réparties cinglantes et s'était contentée de sourire docilement en marmonnant de vagues remerciements. « Et puis, » ajouta Eleanor Wimbley avec malice, « vous méritez cette médaille rien que pour habiter sous le même toit qu'Abraxas Malfoy. Avant l'apparition de Voldemort, c'était sans aucun doute la personne que les sorciers craignaient le plus. Vous saviez que certains parents menaçaient leurs enfants de les envoyer chez les Malfoy s'ils ne finissaient pas leur assiette de légumes ? Eleanor Wimbley rit avec légèreté et Narcissa l'imita timidement. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, » dit une voix traînante derrière elle. Lucius avait fini par les retrouver, et même s'il affichait un calme apparent, Narcissa devinait au léger tremblement de sa voix qu'il était absolument furieux d'avoir été obligé de leur courir après pendant qu'elle devisait gaiement. « Ah, vous voilà enfin, Mr. Malfoy. Nous vous attendions en faisant une petite visite du pensionnat. »« Oui, c'est ce que j'ai constaté, » dit Lucius en rentrant dans la pièce, faisant claquer ses talons sur le sol. Narcissa se rappela soudain la raison de leur venue et fourra précipitamment la médaille dans l'ourlet de sa cape. Elle sentait le regard furieux de Lucius l'interpeller. Quant à Eleanor Wimbley, elle continuait de sourire sereinement. « Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez me parler, Mr. Malfoy. »« Absolument. Figurez-vous que je ne suis pas venue pour faire une petite visite, mais pour une affaire de la plus haute importance. » »« C'est donc cela. Après les lettres, disons quelque peu désobligeantes, que j'ai reçues de votre père, je crois savoir de quoi il s'agit. » Lucius lui tendit une lettre du ministère. « Voilà une convocation pour une audience. L'enquête est mal engagée pour vous, Mrs. Wimbley. Le témoignage de l'inspecteur vous condamne. » Eleanor prit le parchemin que Lucius lui tendait, le déplia délicatement et le parcourut d'un œil amusé. Comment se fait-il que le ministère ait envoyé quelqu'un d'aussi important que vous pour me faire parvenir une simple lettre? Un hibou aurait parfaitement fait l'affaire. C'est moi qui ai insisté pour vous la faire parvenir, dit Lucius. Je tenais à vous faire une proposition. Je vous écoute, dit Eleanor en haussant les épaules. Lucius fit quelques pas dans le bureau, examina avec mépris les nombreuses photos qui y étaient exposées, et s'assit dans un gros fauteuil de cuir sans y avoir été invité. « Combien ?» demanda-t-il, ses mains jointes sur ses jambes croisées. Eleanor Wimbley eut un petit rire. « Combien voulez-vous ? » insista Lucius. « Pour fermer définitivement ce pensionnat et vivre paisiblement jusqu'à la fin de vos jours. » « Mr. Malfoy, vous perdez votre temps. » Je n'accepterai pas la moindre noise de votre part, et tant que je vivrai, j'emploierai toutes mes forces pour maintenir ce pensionnat ouvert. Oh, je vous en prie, épargnez-vous de telles souffrances, dit Lucius avec un petit geste désinvolte de la main. Et faisons gagner du temps à tout le monde. Prenez les quelques milliers de galions que nous vous proposons, faites vos bagages et disparaissez. Le monde magique s'en portera bien mieux. Eleanor secoua la tête avec obstination. « Je crois au bon sens du ministère, » dit-elle. « Et votre proposition m'y encourage. Si vous étiez tout à fait certain de l'issue défavorable de cette enquête, vous ne seriez pas ici. Je me trompe ?» Lucius émit un claquement de langue agacée. « Mrs. Wimbley, s'il vous plaît, éclairez-moi sur vos motivations. Partir à la pêche aux petits sangs de Bourbe pour les propulser dans notre monde si bien gardé ? Héberger des moldus dans un établissement magique ? Leur expliquer le fonctionnement de notre société? En voulez-vous à ce point aux sorciers pour persister ainsi à vouloir les faire tomber en disgrâce? Les yeux noirs d'Eleanor Wimbley brillèrent un peu plus intensément. Je vous retourne la question concernant vos motivations, Mr. Malfoy. Vous qui venez de vous marier, et qui avez manifestement plus d'argent que quiconque, quel intérêt trouvez-vous à gâcher une journée de soleil comme celle-ci pour faire fermer un établissement d'une importance totalement surestimée et qui se contente de mettre à l'abri une vingtaine d'enfants dont vous ne connaissez ni le nom ni l'histoire. » Narcissa baissa les yeux, car elle était en partie d'accord avec Eleanor Wimbley. Tout cela était si assommant. Pourquoi Lucius préférait-il ce genre de visite désagréable à sa propre compagnie? Pourquoi ne pas laisser cette femme tranquille et profiter du ciel encore clément pour se promener dans leur jardin avant de se prélasser tranquillement au coin du feu tous les deux? Mais Lucius, décidément, ne décolérait pas. « Mon père et moi œuvrons nuit et jour pour conserver la grandeur de la société des sorciers, face à des nuisibles comme vous, » grimaça-t-il. « Nous, les grandes familles de sorciers, sommes la force de l'Angleterre, comme nous l'avons toujours été. Nous sommes connus dans le monde entier pour notre registre des sangs purs. Nous n'avons aucunement besoin d'être dilués avec cette racaille. Que chacun reste dans son monde, et les hippogriffes seront bien gardés. » Éléanor Wimbley le toisa froidement, puis se détourna et entreprit de ranger son bureau en désordre. « Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vous renvoie vers la sortie, » dit-elle. « C'est un choix regrettable, Mrs. Wimbley. Lorsque cet établissement aura mis la clé sous la porte, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et je doute qu'après avoir fait perdre un temps précieux au Magen Mago, le ministère soit aussi généreux avec vous que lorsque vous avez fait ouvrir ce pensionnat. » « William vous raccompagnera, » indiqua Eleanor Wimbley en faisant un geste agacé vers la porte. « Ah, Mr. Malfoy, j'oubliais. » Lucius se tourna vers elle sur ses gardes. « Où avez-vous trouvé votre chapeau ? J'aimerais acheter le même pour l'épouvantail que nous allons mettre à côté du potager. » Lucius ne se laissa pas démonter. « Voilà une brillante idée, » commenta-t-il. « Malheureusement, je doute que ce soit dans vos moyens. Permettez-moi de vous prodiguer un petit conseil. Si j'étais vous, je n'investirais pas trop dans ce potager. Il sera bientôt détruit, comme tout cet établissement. Oh, je vous en prie, faites-le fermer. J'en ouvrirai deux autres. Nous aurons l'occasion de le vérifier, » répliqua Lucius. Narcissa, partons d'ici. Narcissa sortit à grands pas, très droite, sans accorder un regard à Eleanor Wimbley, et Lucius claqua furieusement la porte derrière eux. Une fois que les deux époux furent sortis, Eleanor Wimbley cessa de sourire et tomba sur son fauteuil en poussant un long soupir de lassitude. L'étau se resserrait de jour en jour. Les sorciers conservateurs étaient toujours plus puissants, malgré ce que voulait faire croire le ministère. La possibilité que le pensionnat doive fermer ses portes était de plus en plus probable, et cette idée lui était insupportable. Machinalement, elle releva le cadre qu'elle avait précipitamment tourné face contre son bureau avant d'aller accueillir Narcissa. « Mon petit Édouard, heureusement que tu es là pour me donner du courage, » dit-elle en retrouvant le sourire chaleureux qu'elle avait momentanément perdu. Elle sortit la photo de son cadre et lut une nouvelle fois les quelques lignes qui étaient écrites au dos de celle-ci. « Chère Éléanor, j'espère que tout va bien au pensionnat. Notre petite Nymphadora est née en pleine santé. Elle nous a même offert une première surprise. C'est une métamorphomage. Elle est pleine d'énergie et nous comble de bonheur à chaque instant. Je suis si heureux que j'ai du mal à y croire. Merci encore, Éléanor, car c'est notre rencontre qui m'a mis sur le chemin de ce bonheur-là. Andromeda se joint à moi pour t'embrasser avec affection et Nymphadora attend avec impatience de recevoir ta visite. À très bientôt. Ted. » Sur la photo, souriait Édouard Tonks, dit Ted, son épouse Andromeda et leur charmante petite fille aux cheveux roses. Le garçon avec qui Éléanor avait construit le pensionnat était devenu un charmant jeune homme, au regard toujours farouche. « Quoi qu'il arrive, » songea Éléanor pour se rassurer, « je n'aurais pas fait tout cela en vain. » Elle fut interrompue dans ses réflexions par un petit coup donné sur sa porte par William Penswick. Les Malfoy venaient de disparaître dans la muraille de Tantagriffe. « C'est bon, ils sont partis !» dit-elle d'une voix forte en direction de la draperie violette qui se trouvait juste derrière elle. Elle écarta la tenture et frappa trois coups sur la porte dérobée qui se trouvait derrière. Presque aussitôt, la porte s'ouvrit lentement et une jeune femme apparut dans l'encadrement. Ses traits ressemblaient à ceux de Narcissa de manière saisissante et ses longs cheveux noirs et bouclés frémissaient d'effroi. « Ma pauvre Sissi !» gémit Andromeda. « Éléanor, il faut faire quelque chose. Lucius est un monstre !» De nos jours. Bonjour, Drago. Je vais commencer par te présenter mes excuses pour avoir tant tardé à te répondre. Malheureusement, me replonger dans tous ces vieux souvenirs a été bien plus douloureux que prévu. Malgré la présence précieuse des Weasley et des Potter, je dois avouer que le courage me manque depuis que Teddy a quitté la maison. Après ce long délai, voici tout de même quelques nouvelles de ton fils Corpus. J'ai appris par les Potters qu'Albus et lui auraient entrepris de voyager autour du monde pour une durée indéterminée. Leur localisation change sans cesse. Je crois qu'ils sont toujours en Europe, mais qu'ils s'approchent de l'Asie centrale. Je les envie. Cette région du monde fourmille de livres voyageurs. D'après les rares lettres d'Albus, j'ai l'impression que ton fils Corpus se porte bien. Il se promène, voit des tas de choses formidables et font des rencontres passionnantes. Nous espérons tous que cela lui donnera envie de reprendre contact avec toi. En ce qui concerne ta deuxième requête, je vais sans doute te décevoir. Mais Ted et moi avons été tenus à l'écart pendant la Première Guerre, car Maugret estimait que nous courions un plus grand danger que tous les autres, ce qui, admettons-le, était parfaitement ridicule. Les deux souvenirs que je t'envoie datent plutôt de l'avant-guerre et du tout début de celle-ci. Après quoi, le récit de notre quotidien entre quatre murs ne t'apportera pas grand-chose. Ainsi, tu pourras découvrir de tes propres yeux le tristement célèbre pensionnat Wembley et tu auras peut-être une idée un peu plus précise de la manière dont la Première Guerre a commencé. Tu pourras aussi voir à quoi ressemblait Adam Claring, dont tu as sûrement déjà entendu parler. Après tout, c'est en partie pour lui que l'Ordre du Phénix a été nommé ainsi. Je te fais également parvenir plusieurs articles de journaux à propos de cette terrible nuit de Noël. Inutile de te préciser à laquelle je fais allusion. C'est Ted qui les a gardés à l'époque. J'avoue que je n'ai pas eu la force de les lire à nouveau, mais je pense que tu y trouveras quelques informations précieuses sur tous ces sinistres événements. J'espère sincèrement que tout cela te sera utile. Quoi qu'il en soit, je t'adresse tous mes encouragements, car je trouve que ton projet est très prometteur. Remettre un peu de sens dans tout ce chaos me paraît nécessaire, et je regrette que personne ne s'y soit attelé plus tôt. J'espère donc que tu viendras à bout de ce récit et que Scorpius voudra bien entendre tout ce que tu as à lui dire. Si jamais je parviens à entrer en contact avec lui, je te promets que j'essaierai de lui faire entendre raison, sans lui parler de ce que tu entreprends, bien entendu. Je te souhaite bien du courage, Drago, et n'hésite pas à me solliciter de nouveau si tu en as besoin. À bientôt peut-être. Andromeda. Dans le silence immobile et glacé du manoir, le bruit que fait Drago en repliant la lettre parcheminée paraît assourdissant. Il se trouve dans l'aile nord, qui n'a pas été chauffée depuis plusieurs mois. Une buée épaisse s'échappe de ses lèvres à chaque expiration. Il tremble de froid malgré plusieurs couches de vêtements et doit frotter vigoureusement ses mains l'une contre l'autre pour espérer conserver l'usage de ses doigts. Il se trouve dans une petite pièce sombre, dépourvue de fenêtres, éclairé par la lueur vacillante de la chandelle qu'il tient à la main. Il n'y a pas de table non plus, pas de bureau, pas même un fauteuil. Seulement une imposante bassine de pierre gravée de runes qui flotte au milieu de la pièce. Du bout des doigts, Drago touche le bord de la bassine et tâtonne le long des irrégularités du granit. Elle était encore brisée en morceaux il y a peu de temps, avant d'être minutieusement réparée. Il ne manque aucun éclat. Aucune rune n'est déformée. La pancine des Malfoy est de nouveau prête à l'emploi. Avec appréhension, il regarde furtivement autour de lui. Sur les étagères qui courent le long des murs, d'innombrables fioles couvertes de givre scintillent paisiblement, remplies d'une substance argentée qui ne semble ni liquide, ni gazeuse, et sur laquelle le froid n'a pas de prise. Une armée de souvenirs heureux lui tend les bras, tous soigneusement ordonnés, classés par ordre chronologique et affublés d'étiquettes sur lesquelles les prénoms d'Astoria et de Scorpius se trouvent presque systématiquement. Drago se surprend à s'en rapprocher, aimanté par la tentation de s'y replonger pour la énième fois. Mais il se ravise aussitôt. Il n'a que trop perdu de temps. Pour l'heure, ce sont les deux petits flacons envoyés par sa tante Andromeda qui l'intéressent. Le premier est étiqueté « Pensionnat Wembley », anniversaire Nymphadora. Le souvenir qui se trouve à l'intérieur évolue paisiblement, nimbé de volutes rosées. À l'inverse, celui qui se trouve dans le second flacon, étiqueté « Pensionnat Wembley, nuit de Noël », crépite intensément et se cogne sans cesse aux parois de verre. « Le pensionnat Wembley », murmure Drago. Ce nom ne lui est que trop familier. Il l'a entendu des dizaines de fois dans la bouche de son père ou de ses amis, toujours pour s'en moquer, ou pour se vanter des torts qu'ils avaient causés à l'établissement et à sa propriétaire. La gorge serrée, Drago dévisse le bouchon pour libérer le premier souvenir. Aussitôt, celui-ci s'échappe de son flacon et s'étale dans la pancine. Des images lumineuses éclairent la pièce. Les visages souriants de plusieurs personnes se succèdent au fond de la bassine de pierre. En tendant l'oreille, on peut même entendre le rire d'une petite fille. Avant de se pencher au-dessus de la pancine, il hésite. Il éprouve un certain malaise à l'idée de se plonger dans le passé de ceux à qui sa famille a fait tant de mal, surtout dans un lieu aussi symbolique que le pensionnat Wembley. Mais il secoue la tête. Les anciens ennemis de son père ne sont plus les siens, au contraire. Et il doit se dépêcher. Tout ce qu'il a à raconter ne peut attendre d'être révélé. Il faut que Scorpius sache. Et il est grand temps qu'Andromeda apprenne certaines choses, elle aussi.